bien voilà. Bonjour à toutes et celles ceux qui nous écoutent. Daniel avec vous pour un tout petit moment. Voilà, j'ai mis le masque comme assez de coutume en studio. Aujourd'hui, bien mercredi 16 septembre 2020. Article 25. Notre émission se va avoir pour sujet un prisonnier politique qui répond au nom de Georges Ibrahim Abdallah. Je vais faire un peu sa biographie. Et puis je passerai directement un peu à son histoire. J'espère que tout le monde m'entend et que je passe bien à l'antenne. Voilà, normalement, c'est ça. Voilà, ça passe. Bien. Georges Ibrahim Abdallah est né donc au nord du Liban dans une famille de 9 enfants, dont le père est militaire. Ah, voilà, je m'excuse, j'ai un coup de téléphone. J'ai le téléphone qui sonne en même temps, je mets un peu de musique, je m'excuse.
Rest in peace to my motherfucking Biggie Smalls. That's right, boy. It's going on right here. Thug life. God bless the dead. God bless the dead and bury, nigga. Don't worry if you see God first. Tell him shit got worse. I ain't mad. I know you representing the crew, and I can picture you in heaven with a blunt and a brew. Fuck the world. Pain was a part of the game. If you a baller, money went as quick as it came. My role models gone or they locked in the pen. Straight hustlers caught up in the whirlwind. The other day I thought I see my homeboy Biggie saying shit don't stop, nigga, no pity. We all hoods and all we ever had was dreams. Money making motherfuckers pot scanning schemes. In the gutter, you learn to have a criminal mind. I was addicted to trying, never meant to do time. My epitaph, well, Reed was the last of G's. Kick the shit to make the white man bleed. God bless the dead.
That's right.
God bless the dead.
We don't stop.
God bless the dead.
Voilà. Je m'excuse auprès de toutes celles et ceux qui écoutent, mais le téléphone a sonné, il fallait bien que je réponde. Bien, Georges Ibrahim Abdallah, je reprends le début, hein, n'est-ce pas ? Est né donc au nord du Liban dans une famille de 9 enfants, dont le père est militaire. Bon, il effectue ses études à l'école normale d'Ajdrafé, quartier de l'Ouest de Beyrouth. En 1972, il est nommé instituteur dans un village de la plaine de la Beka. Il reste à l'enseignement jusqu'en 1979. Bon. Il est oncle paternel de Chloé et de l'homme qui était une écrivaine. Bon, engagement politique, son engagement politique débute dans les rangs du Parti nationaliste syrien, PNSS, pour rejoindre ensuite, dès 1971, le Front populaire pour la libération de la Palestine. Bon, l'engagement de Georges Abdallah est motivé par la cause palestinienne et les invasions successives de l'armée israélienne au sud du Liban. En 1978 et 1982, oui, je ne fais pas d'erreur, l'ancien réponse des multiples attaques donc palestiniennes contre la frontière nord d'Israël. Il est d'ailleurs blessé lors de l'invasion israélienne au sud du Liban. En 1978, selon le Mossad, il est un proche de Georges Habash, le chef du FFPLP. Il participe à la création de la fraction armée révolutionnaire libanaise. Organisation se déclarant communiste et anti-impérialiste, dont il dirige les opérations en France sous les pseudonymes Saïd El-Aï Masri et Abdul Gadir. La base de ce groupe étant basé à Lyon, ancien membre des Farles, on confiera à Jazel Rett en 2009. Voilà, donc c'était la petite biographie donc, de Georges Ibrahim Abdallah. Je vais donc continuer sur le même thème et approfondir un peu plus. Voilà, Georges Ibrahim Abdallah. Ce 25 octobre 2019, Georges Ibrahim Abdallah entame sa 36e année de détention dans les prisons françaises, libérable depuis 20 ans. Mais l'objet d'un acharnement judiciaire sous pression étrangère sans équivalent, il est devenu, même si ce statut lui est refusé, un des plus anciens prisonniers politiques du monde. Dirigeant d'une organisation libanaise marxiste, il avait été condamné en 1987 à la détention perpétuelle. Pour complicité, bon, donc, c'est ce qu'on a dit à l'époque, hein, pour complicité dans l'assassinat à Paris de deux diplomates américains et israéliens, payant largement pour d'autres attentats qui n'étaient pas les siens. Bon, récit d'un parcours hanté par l'histoire. Il est devenu donc l'un des plus anciens prisonniers politiques du monde, laissant loin derrière lui le triste record de Nelson Mandela ou celui des militants de la fraction armée rouge allemande. Aucun nazi condamné n'a été détenu aussi longtemps, sinon Rudolf Hess, le dauphin de Hitler, après la fin de la guerre. Les actes qui fondent sa détention relèvent d'une guerre internationale qui a dû s'en tenir. Bon, aujourd'hui, amuré dans une cellule de la Meuse, dans le sud de la France, Georges Abdallah fut un spectre des années 80. 36 ans après son arrestation, son nom reste associé à juste titre à plusieurs meurtres perpétrés en Europe, en pleine guerre du Liban, mais aussi par confusion médiatique, à une vague d'attentats aveugles, qui, lui, est certainement étranger, tant son propre combat est déciblé. Sa trajectoire reflète le drame d'une époque. Issu d'une famille chrétienne maronite, Georges Ibrahim Abdallah naît en 1951 à Kobeya, un gros village au nord du Liban. C'est là qu'il grandit au sein d'une fratrie de 9 enfants sous la forte autorité d'un père militaire. Devenu professeur de collège, il est muté à Beyrouth, où à contre-courant de sa culture familiale, il sympathise avec des milieux pro-palestiniens et nationalistes arabes, à l'époque plus imprégnés de marxisme que d'islamisme. Après le début de la guerre du Liban, il rejoint le Front populaire de libération de la Palestine, puis une petite organisation qui a sans doute contribué à faire renaître les fractions armées révolutionnaires libanaises Farl. Composé surtout de militants originaires de Kobeya, celle-ci cherche après l'invasion du Liban par Israël 20 000 morts combattants civils apportés en Europe. La guerre se mit au Proche-Orient, plusieurs actions meurtrières leur sont attribuées au début des années 80, dont en 1982, les assassinats à Paris du lieutenant-colonel Charles Ray, attaché militaire adjoint de l'ambassade des États-Unis en France, et Yaakov Barzi Mentov, deuxième conseiller à l'ambassade d'Israël, ainsi que en 1984, celui à Rome de l'amiral américain Lermont Hutt. Georges Ibrahim Abdallah est arrêté à Lyon en octobre 1984, par hasard. Alors en Suisse, il venait récupérer la caution d'un appartement de location. Les policiers le découvrent porteur d'un vrai faux passeport algérien et l'arrêtent avec l'aide de différents services secrets. Amis algériens, mais aussi israéliens, il vante sa véritable identité. S'il est reconnu comme un membre important des Farl, qu'on croit en lien avec l'action directe, son implication personnelle dans leur attentat est cependant alors aucunement établie. Et les charges se limitent à l'usage des faux papiers au Liban. Les Farl réagissent exigeants. La libération de leur chef est pour mieux se faire entendre enlève le 23 mars 1985 à Tripoli, Nord-Liban. Un diplomate français, Sidney Gilles Perrault, qui se trouve être le fils de l'écrivain Gilles Perrault. Patron de la DEST des contrats d'espionnage français, Yves Bonnet négocie immédiatement via l'Algérie le principe d'un échange. Les Farl acceptent et tiennent parole. Le diplomate est libéré après 13 jours. Il n'en sera pas de même de Georges Abdallah, dans un appartement dont il paye le loyer. Les policiers découvrent à ce moment-là des explosifs et des armes, dont le pistolet qui semble avoir servi à tuer 3 ans plus Tau, les diplomates Charles Rey et Yaakov Bartimentov. Le Libanais est inculpé de complicité à leur assassinat. Après une première condamnation, 4 ans de prison, en juillet 1986, pour les délits véniels, détention d'armes et faux papiers, son véritable procès s'ouvre le 23 février de 1987. Devant un cours spécial, l'atmosphère y est très tendue, représentée par leur ambassade des États-Unis, se sont portés par des civils. En France, surtout l'année qui précède, décembre 1985, mars-septembre 1986, a été marqué par une vague d'attentats sanglants, 13 morts et des centaines de blessés. Ils ne peuvent aucunement être imputés à Georges Ibrahim Abdallah en prison depuis 2 ans. Donc on a voulu faire porter le chapeau. Un comité de soutien avec les prisonniers politiques arabes du Proche-Orient, CSPPA, bon, pro-iranien, les revendique au demeurant. Officiellement, si bien le complice des sales meurtres de Charles et Yaakov Bartimento, agent ami dans sa guerre, que l'on juge. Pourtant, la confusion entretenue par les autorités, que par la presse s'est installée avec leur peur autour de celui qu'on désigne comme l'ennemi public numéro un. Il a fait trembler les Français, titre ainsi dans son registre sensationnaliste, le Nouvel Observateur, pourquoi pas, avant le procès. Si Abdallah n'a pu connaître les attentats de 1986, ne peut-il en être même derrière les barreaux, l'ordonnateur, et ses frères, autres visages inquiétants dont les portraits sont diffusés sur les murs des exécuteurs. Événement perturbateur, une surprise vient de l'accusation, suggérant une menace de représailles. L'avocat général ne requit que 10 années de prison. Je crois dans l'intérêt de tous pouvoir vous demander, vous conjurez, vous, supplier de ne pas prononcer à l'encontre de l'accusé une peine de réclusion criminelle, supérieure à 10 ans. Alors là, fait exceptionnel, la Cour ne le suit pas et prononce la peine maximale à perpétuité. La condamnation est présentée comme un acte de courage à l'égard du terrorisme approuvé par 78% des Français à l'époque. Dans un sondage CSA de circonstances, sous la plume de son éditorialiste, Claude Cabanne, quotidien communiste de l'Humanité, en fait une autre lecture. Washington a gagné sous les applaudissements de Tel Aviv, le procès Abdallah a été de bout en bout piloté par une puissance étrangère. Voilà. Il est aussi un coup de politique intérieure. Le ministre de la police de l'époque, Robert Pandreau, confiera 8 ans plus tard, nous savions que pour des Français qui pensaient avoir reconnu le frère Abdallah, sur les lieux des attentats, tous les barbus et proches orientaux se ressemblent. Le contact, notamment algérien, nous assure que le plan Abdallah n'est pour rien dans cet attentat de 1986. Mais nous n'apporte pas la preuve. Je me suis dit qu'au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne fera pas de mal, même si elle ne faisait pas de bien. En réalité, nous n'avions alors aucune piste. Voilà. Et j'en resterai là pour Georges Brani. Abdallah, qui aurait dû être libéré, mais qui est encore sous les verrous dans les prisons françaises. Voilà. Je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission.
Thank you.
Je reprends le cours de l'émission après avoir un peu parlé donc de ce prisonnier qui est toujours, qu'on s'appelle, détenu donc à la maison là-haut, en France. Un petit tour sur le droit des demandeurs d'emploi, d'une part. Après, un petit tour sur les offres d'emploi illégales, donc de Pôle emploi. Par la suite, Covid législativement, nous verrons un peu ce qu'il en est exactement. Et pactole les entreprises. Alors vous allez voir, vous verrez que si j'ai le temps, les entreprises ne manquent pas d'argent. Voilà. Alors, droit des demandeurs d'emploi, c'est nous voir un peu ce que... Voilà. Demandeur d'emploi, c'est droit, obligation. Alors, quelles sont les aides pour les chômeurs? Puis-je travailler et toucher le chômage? Est-ce que le chômeur a droit à la prime d'activité? Est-ce que les étudiants ont droit au chômage? Et c'est de répondre à toutes ces questions-là. Alors, quelles sont les aides pour les chômeurs? Bien, nous allons voir ça tout de suite. En fonction donc de leur âge et de leur situation personnelle, les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de plusieurs aides. Aide au retour à l'emploi, allocation sociale spécifique, ASS, revenu de solidarité active, RSA, etc. etc. Voilà. Rechercher quelles sont les aides pour les chômeurs, nous allons voir ça également. La SS, allocation de solidarité spécifique, est une aide financière destinée aux chômeurs, en fin de droit, quel que soit leur âge, qui ont travaillé au moins 5 ans durant les 10 années précédentes. L'exception à Pôle emploi. Alors, ceci date du 19 octobre 2018. Ce n'est pas si vieux que ça. Et à ma connaissance, c'est toujours d'actualité. Mais comme le dit le vieil adage, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints et prendre contact directement avec les pôles emploi qui devraient pouvoir vous renseigner plus convenablement. Bon, quel est le prime pour les chômeurs? Eh bien, nous allons voir ça également. La CAF ou Pôle emploi, l'aide exceptionnelle sera versée une seule fois par foyer entre Pôle emploi et la caisse d'allocation familiale. Bon, c'est la CAF qui sera prioritaire pour verser de l'aide, en l'occurrence, au sein du même foyer. Ce sera donc le même bénéficiaire du RSA qui recevra l'aide de la part de la CAF. Cela date du 20 mai 2020, ce n'est pas si vieux que ça, donc c'est cette année. Voilà. Donc l'aide de 150 euros en l'occurrence, c'est une aide. Hein. Est-ce qu'un chômeur, quelle aide quand un chômeur n'a pas droit au chômage? Puis nous allons voir ça également. L'allocation de solidarité spécifique, il s'agit d'une aide versée aux demandeurs d'emploi n'ayant pas ou plus droit au chômage. Voilà, je reviens un peu. Le revenu de solidarité active RSA, si vous ne pouvez pas bénéficier de l'allocation, donc de solidarité spécifique, le RSA peut aussi vous être attribué sous certaines conditions. Fin de droit, que faire, qui contacter aide sociale, donc ça, voilà. Rechercher quelle aide quand on n'a pas droit au chômage. Nous allons essayer de voir ce qu'il en est exactement. Ah, si je n'ai pas droit au chômage, à quelle aide ai-je droit? 10 août 2020. Si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier des allocations chômage, il existe différentes aides financées par l'État. Voilà, ben là encore, il faut se renseigner auprès des pôles emploi, c'est toujours pareil. Bon, quelle aide quand on ne travaille pas? Bien sûr, nous allons voir ce qu'il en est exactement. Si je n'ai pas le droit aux allocations chômage, à quelle aide ai-je droit? Et je reprends un peu ce que j'ai dit parce que c'est quand même assez important. Hein. Si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier des allocations chômage, il existe différentes aides financées donc par l'État pour les personnes les plus démunies. Voilà. Alors, chômeurs en fin de droit, ont-ils le droit au RSA? Nous allons voir ça, ce qu'il en est exactement. Chômeurs en fin de droit, avez-vous droit au RSA ou à l'ASS? Cela date de pas loin. Voilà. Les demandeurs d'emploi dans l'allocation chômage arrive à terme peuvent recevoir un revenu minimum sous condition de ressources. Bon, l'allocation de solidarité spécifique ASS ou le revenu de solidarité active RSA. les formalités pour demander l'allocation de solidarité spécifique, ASS à taux plein ou ASS à différentiel, RSA en fonction des ressources et de la composition du ménage, le montant forfaitaire du RSA en 2020. Bon, l'allocation de solidarité spécifique est versée par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui justifie de 5 ans d'activité salariée au cours des 10 ans précédents, la fin du contrat de travail et qui dispose de ressources mensuelles inférieures à 1 an. €171,80. Voilà. Avec ça, on va pas loin. Et 1841 € pour un couple. Bon, les formalités pour demander l'allocation spécifique de solidarité, bien sûr. Les chômeurs en fin de droit n'ont en principe aucune démarche à effectuer et Pôle emploi leur adresse directement les formulaires nécessaires à la constitution de leur dossier. Demande d'allocation de solidarité spécifique en plus de leur certificat de travail. Des attestations de formation rémunérées et autres justificatifs relatifs aux enfants et candidats à allocation spécifique de solidarité sont tenus de fournir leur dernier avis d'imposition, puis dans un second temps, le cas échéant, le bulletin de salaire de leur conjoint, partenaire pacsé ou incubé. Voilà. Bon, le RSA en fonction des sources et la composition du ménage, bien sûr. Certains chômeurs non éligibles à l'ASS parce qu'ils n'ont pas travaillé 5 années au cours des 10 ans précédant la rupture de leur contrat de travail peuvent parfois toucher leur revenu de solidarité active. Les conseils se rendent sur le site de la Caisse d'allocation familiale. Là encore, il faut passer par la CAF. Et pour déterminer ses droits au RSA, la demande de cette prestation s'effectue auprès de la Caisse d'allocation familiale, CAF ou de la Mutualité sociale agricole pour ce qui dépend de l'agriculture. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Pour tout renseignement, et bien veuillez prendre contact soit pour toucher des allocations donc, de chômage d'une part, et pour aussi toucher, en ce qui concerne les RSA, s'adresser donc au personnel CAF à Marseille. Voilà, il est 14h33, je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission.
We'll be right back.
Voilà, ça va mieux, j'étais un peu enroué, je m'en excuse. Bien, Pôle emploi. Pôle emploi. Alors, il y a, à ce qui concerne Pôle emploi, il y a en moyenne 47% d'offres illégales et la misère à perpétuité pour les demandeurs d'emploi. Voilà, cela titre donc l'Humanité. Cet article date du 23 janvier 2020, donc cette année, ce n'est pas si vieux que ça, il n'y a que quelques mois de ça. Alors que les privés d'emploi sont en premier rang des victimes de la société chômeur a recensé une offre sur deux illégale sur le site internet de Pôle emploi, de quoi renforcer encore la colère des précaires. Un chiffre au coup de poing dans un contexte social explosif. 47%, approximativement, hein, à mon avis, c'est beaucoup plus fort. Mais partons sur cette base-là. 47% des offres sur le site de Pôle emploi sont illégales. 61%, c'est le constat dressé par la CGT Chômeur lors de sa troisième enquête nationale basée sur 1521 offres sélectionnées à Paris sur un jour ou en Seine-Saint-Denis. Sur une semaine, bon. Prenons ça comme ça s'appelle au niveau national. Hein. Selon ce résultat dévoilé donc par l'Humanité, presque une annonce sur deux sera donc non conforme dans le secteur du commerce, du secrétariat, assistanat et du conseil. Études passées au peigne fin. Pendant deux jours, par les militants répartis entre Montreuil, Seine-Saint-Denis, Lorient, Morbihan, cette période de régression sociale, ce chiffre attise encore la colère des plus précaires, bien sûr, visés par la réforme ultra-violente de l'assurance chômage, réduisant leurs droits de manière drastique, mais aussi par le projet de loi de l'heure promettant des pensions microscopiques, donc vues au microscope. Ce volume offre d'emploi bidon, qui est très bidon, on ne peut pas dire le contraire, hein, très important, recensé donc par la CGT chômeur, entretient cette spirale de la pauvreté tout au long de la vie, d'après Pierre Garnaudier, secrétaire général de la CGT chômeur. 11 millions de privés d'emploi et précaires vont se retrouver condamnés à la misère à perpétuité. Il n'y a pas assez de boulot et parmi ces offres, la moitié sont illégales, bien sûr. Ça va être compliqué de travailler suffisamment pour prétendre à une retraite digne de ce nom, si on ne veut pas se retrouver avec 800 euros par mois. Les chômeurs seniors sont déjà dans des situations difficiles. On va tous avoir des décotes de 10% avec leur âge d'équilibre. Dans cette étude, les métiers du commerce et du secrétariat déjà frappés par les petits contrats révèlent aussi un vivier d'annonces non conformes, avec respectivement 61% et 45% d'offres illégales à Paris. Bon, sur Paris, mais aussi il faut aussi englober la France. Hein. En fait, c'est toute la France qui est sous ce joug, quoi. Sur l'ensemble des corps analysés, 233 annonces n'existent pas, ou un lien mort. 204 d'elles comportent une incohérence de lieu de travail. Elles sont classées à Paris lorsqu'elles sont en réalité en banlieue ou à Marseille. 47 sont des contrats non raccord avec l'énoncé, par exemple, un CDI est proposé alors qu'il s'agit de mission d'intérim ou d'un CDD. On n'a pas pu tout vérifier, mais je soupçonne que cela soit beaucoup plus fort, que cela précise Vladimir Bizet-Guibiron, militant de la CGT chômeur, conseiller pour l'emploi. Les plateformes privées jouent sur le fait que plus tu affiches un CDI, plus cela va attirer le candidat, mais on a trouvé des licornes. Il y avait des propositions de franchise pour un commerce. Dans les contrats à durée indéterminée, on n'avait encore jamais vu ça. 142 offres illégales traitant de la vente de commerce ont été recensées. Autre cas frappant, un CDI de 3 mois, mais aussi des horaires non précisés pour un temps partiel à foison. Des mentions susceptibles d'induire en erreur. L'annonce qui m'a plu le plus, c'est marqué, c'est un CDI de test d'accueil, qui, en creusant pendant un moment, se transformait en alternance de formation. Voilà. Et de stage. Sans que cela soit dans la même ville, hein, déplore Gisèle Savatier de la CGT chômeur de Loire-Atlantique, qui s'inquiète pour l'avenir. J'ai élevé mes deux enfants, j'ai pris des congés parentaux, je n'ai eu que des postes en CDD depuis un licenciement économique, il y a 10 ans. Entre le chômage et la retraite, c'est vraiment la double peine, dit-elle. La seule chose qui nous reste, c'est la lutte. Alors que le contrôle des 6 millions de chômeurs ont été renforcés via l'offre raisonnable d'emploi, ORE, depuis janvier 2019, seuls 6 542 annonces étaient en ligne sur le site de Pôle emploi, et donc loin d'être d'autres conformes. Bon, certaines personnes pourraient se retrouver radiées pour avoir refusé des offres précaires et bidons, notamment sur des critères géographiques. Cela touche en priorité des femmes, rappelle Pierre Garnier, qui est responsable donc des demandeurs d'emploi au niveau national. Voilà. Bon, nous sommes dans une fraude à grande échelle. On peut porter d'offres illégales et mensongères. Ce qui se passe à Pôle emploi, c'est comme le steak de cheval chez Spanghero. Il y a tromperie sur la marchandise. L'enjeu de la véracité des annonces de Pôle emploi est crucial. Selon les syndicats, dans un contexte où les privés d'emploi subissent une pression maximale pour accepter n'importe quel job, avec le changement du mode de calcul du salaire journalier de référence au 1er avril, nombre de chômeurs vont voir leurs allocations baisser, des droits rognés, qui se retrouveront ensuite dans le montant des pensions, car le projet de loi sur les retraites prévoit de baser leurs calculs sur l'indemnité perçue. Les conseillers de l'ex-NPE, c'est loin ça, militent depuis des années pour un contrôle humain renforcé sur les annonces issues des plateformes privées avant publication. Voilà. 49% des offres jugées illégales dans cette étude ne sont en effet pas traitées directement par l'opérateur public. Voilà, donc en définitive, eh bien, ce sont les plus faibles qui sont donc pénalisés. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Il est 14h45, je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes.
Basi, yo, Zongzina.
Tumsa. Tumsa.
Walindi tenata.
Sisyo moja.
Walindi tenata.
Voilà, je reprends l'émission encore pour quelques minutes. Je m'excuse, mais je suis un peu enroué. Bien, on ne peut pas faire d'émission radio sans parler un peu de ce Covid qui nous tourne autour. Comme un cochon malade. Excusez-moi, je le dis un peu cru, mais c'est comme ça. Il est temps de notre part de pouvoir nous surprendre et nous contaminer. Nous allons maintenant ce qu'il en est exactement du licenciement en période de Covid-19. légale ou pas. La pandémie à laquelle nous faisons face a bouleversé les relations de travail. Bon, le travail organisé, certains salariés bénéficient du télétravail, ce qui peut être une solution sans en être une, enfin c'est comme ça. De l'activité partielle, toutefois, et malgré ces différentes situations, l'employeur conserve son pouvoir de direction à la faculté de mettre un terme au contrat de travail. Les dernières semaines ont en effet d'ores et déjà permis de constater plusieurs comportements fautifs, altercations entre collègues, violences sur le lieu de travail, refus de prendre son poste, inexécution contractuelle pendant le télétravail. Une procédure de licenciement est-elle encore possible en période de Covid-19 ? S'il est vrai que dès le 16 mars 2020, Madame la ministre du Travail a indiqué que l'objectif est de ne pas licencier. Mais alors là, certains patrons ont fait le contraire. Aucune ordonnance rendue à la va-vite n'a purement et simplement interdit la mise en œuvre d'une procédure de licenciement. Cette déclaration nous autorise à penser que ce n'était visé que les licenciements pour motifs économiques et particulièrement ceux de complaisance. La mise en œuvre d'un licenciement nous semble donc possible pendant cette période de trouble. Bon, toutefois, il est fort à parier, bien sûr, que les tribunaux feront preuve d'une certaine clémence vis-à-vis des salariés et ne valideront que les comportements fautifs d'une particulière gravité. Ainsi, certains comportements violents sur le lieu de travail ne bénéficieront d'aucune impunité. Une baisse donc de la performance commerciale depuis la mise en confinement ne pourra probablement pas faire l'objet d'un licenciement sans que les tribunaux ne considèrent que cette baisse soit liée à la période toute particulière qu'on rencontre notre pays. Une baisse très sérieuse d'activité du salarié en télétravail devrait ainsi préalablement faire l'objet de plusieurs mises en garde avant d'envisager la rupture du contrat de travail de la personne en question. Bon, il conviendra en conséquence de redoubler l'aide de prudence dans l'administration de la preuve des griefs faits aux salariés dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement. Bon, quelles sont les précautions à prendre? Rappelons que la convocation à un entretien préalable de licenciement doit être effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre des charges en application de l'article 1232-2 du Code du travail. Toutefois, ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, mais permettent d'éviter toute contestation sur la date de présentation du courrier. Il est à cette occasion fondamental de respecter le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article. Bon, je passe à l'article du Code du travail. La convocation à l'entretien préalable peut donc, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous, être également adressé aux salariés par compte de poste. En revanche, une simple convocation orale par télécopie rendrait la procédure régulière. Et depuis le 1er janvier 2019, l'employeur devrait pouvoir aussi utiliser la lettre recommandée électronique. Toutefois, d'une part, aucune décision de justice n'a encore validé un tel procédé. D'autre part, selon les sites auxquels nous avons eu accès, le salarié peut refuser ce mode de notification. L'employeur pourrait donc ne pas être en mesure d'administrer la preuve ni la délivrance de la réception de la lettre de la convocation. Voilà. Donc en définitive, en matière de licenciement, l'employeur ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Il est 14h52, encore quelques minutes d'antenne, un peu de musique et je reprends. I'm fine.
Travel on, I start to believe if I were to bleed. In sky, the man changed his hands, held high. Cruise me, yard, cruise me, babe. A plan to leap beyond, beyond, beyond. No return.
Voilà, je reprends le cours de l'émission pour quelques minutes. Ici, dans ce studio, il fait une chaleur terrible. Bien, le pactole des entreprises. Ça a été publié le 11 septembre 2019, mais c'est toujours d'actualité, étant donné que l'État, comme ça s'appelle, donne régulièrement de l'argent aux entreprises. Alors les entreprises sont assises sur un pactole à environ de 11 milliards d'euros, environ. Hein. On peut pas... À mon avis, c'est plutôt plus que moins. Mais disons que, partant sur la base, 11 milliards d'euros. Ces résultats, donc, impressionnants, sont le fruit d'avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises françaises en 2018, donc il y a deux ans arrière. Ces derniers ont, par exemple, vu leur cotisation sociale baisser de 20 milliards, voilà, donc, environ, tandis que le crédit d'impôt sur les sociétés a lui augmenté de 20 milliards d'euros. Grâce à ces cadeaux, les entreprises françaises sont celles qui ont rassemblé le plus d'argent, selon Maudit, à l'image d'EDF, voilà, oui, qui a magasiné 34 milliards d'euros et de total avec 26 milliards d'euros. Avec tout cet argent, imaginez tout ce que l'on pourrait faire. Bon, absence de redistribution, bien sûr, mais plus que le montant, c'est l'utilisation de cet argent qui fait grincer les dents. Au lieu de le réinvestir dans l'emploi ou le capital, de nombreuses entreprises préfèrent la laisser dormir et s'en servent de coussin de sécurité, comme s'il n'y avait pas de coussin chez eux. Pour pallier d'éventuellement problèmes liés à la conjoncture économique, d'autres entreprises, par contre, gardent simplement leur argent pour acheter des entreprises concurrentes et s'emparer de leur part de marché. Ah, c'est, voilà. Voilà. Bon, il y a un analyste qui s'appelle Richard Morawetz. Un ralentissement économique généralisé en Europe pourrait en effet entraîner une baisse du cash dans certains secteurs. Voilà, tout comme un Brexit dur entraînerait un besoin de trésorerie pour faire face à l'accumulation des stocks. Bon, jusque là, ça peut aller. Alors, distribution, mauvaise redistribution. Mais si seulement les entreprises sont contentées de garder leur argent, bah, ça y est, hélas, elles en redistribuent une partie et souvent mal ainsi. Au lieu de moderniser leurs outils de production ou d'augmenter les salaires, les entreprises préfèrent investir dans des entreprises étrangères dans ce souci d'optimisation fiscale. Et tout cela sans parler des dividendes. En 2018, le salaire moyen en France n'a progressé que 2%, alors que les dividendes déversés par les entreprises du CAC 40 ont augmenté de 12%, pour une valeur de 60 milliards d'euros. Voilà. Imaginez ce que l'on pourrait faire avec tout ça. Nous serions riches, mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, il est 14h58, j'aurai l'antenne, je crois qu'une émission va pas tarder à commencer. Je vous dis à mercredi, merci de votre écoute, un peu de musique et le générique. Au revoir.
Gramoun la dans son saison la vie.